Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Worried about your future in tech? Master new skills. Accelerate your team's impact. And redefine what's possible with Pluralsight. We're more than just another online learning platform. We're shattering the skills gap and shaping future generations of technologists. Transform your work. Transform your team. Ready to tap in? Visit us at Pluralsight.com to learn more.
Salut à toi, bienvenue à Phoenix Podcast, épisode 5 de la saison 2. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon associé Jay, comme d'habitude. On a parlé du sel, en fait. Est-ce que c'est aussi dangereux, ou du moins les mythes face au sel et au sodium? Premièrement, j'ai donné des données ou des statistiques face au sel. Jay a donné les rôles du sodium. Par la suite, comment notre corps travaille pour balancer les niveaux de sodium? On a parlé du sel et de la pression artérielle et des mythes un petit peu face à ça. On a parlé de la sensibilité du sel face à la pression artérielle. On a parlé de certaines situations où on peut avoir besoin de plus de sodium qu'à l'habitude. Pourquoi on a besoin de plus de sodium lorsqu'on transpire? Quoi faire lors d'exercices? Quelles sont les recommandations avant et pendant l'exercice en termes de sodium? Et on parle de quelle est la meilleure sorte de sel, donc entre les différents sels à consommer dans la vie de tous les jours. Bonne écoute à tous.
Avant de commencer, je tiens à spécifier, Samuel et moi et tous les membres de l'équipe, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des diététistes, des nutritionnistes, on n'est pas des psychologues et on n'est surtout pas des pharmaciens. On est des naturopathes, on vous partage notre expérience personnelle, client, on vous partage qu'est-ce qu'on a pu voir en clinique aussi. Donc, toujours prendre soin de vous informer à des vrais bons spécialistes dans le domaine de la santé avant de faire tout changement dans votre mode de vie.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon associé Jay, comme à tous les podcasts.
Comment ça va, Jay? Ça va super bien, toi?
Oui, ça va bien, toi, ça va pas tant.
Ça va enrubé. Ouais, fait qu'aujourd'hui, soyez indulgents avec moi, ça se peut que j'aille des petits...
Je pense que je vais parler plus que toi aujourd'hui.
Un petit peu plus, ouais. On va donner des bons points, mais...
On parle de sel et de sodium principalement. C'est le podcast numéro 5 de la saison 2. Fait qu'en fait, tout simplement, je vais partir avec ça. Puis tu sais, juste avant, je m'étais mis une note, puis c'est important de le dire. De toute façon, on le répète tout le temps. Mais à chaque fois qu'on ne fait pas des recommandations de qu'est-ce que vous devriez consommer comme sodium ou comme sel, c'est toujours des tips qu'on peut aller trouver qui peuvent aider différentes personnes. C'est relatif selon la personne. Et évidemment, consultez toujours un professionnel de la santé, voir votre médecin, si jamais vous avez besoin de changer quoi que ce soit par rapport à votre consommation de sodium, mm-hmm. par rapport aussi à si jamais vous avez des conditions spécifiques. Qu'est-ce qui est important
juste
à comprendre?
Juste un petit point. C'est des lectures qu'on fait, c'est des choses qu'on met en application souvent dans notre travail, nous-mêmes personnellement aussi en termes d'athlète. Fait que c'est seulement des recommandations que nous, on a lues dans des livres, puis on va citer beaucoup de docteurs à travers tout ça. Fait que, comme ça me spécifie, toujours, toujours consulter votre médecin si vous avez des troubles pathologiques, quoi que ce soit, qui peut créer des interactions avec le sel.
Fait que je pars avec des données, quelques statistiques, puis au début, j'avais sorti 4 points, je trouvais ça intéressant, puis c'est des titres de magazines qui avaient sorti, voilà, quand même un petit bout, mais je dis petit bout, c'est genre 2014-2013, ça fait que ça fait peut-être 10 ans. Puis c'est super intéressant parce que je vois là 4 gros titres qui étaient sortis dans des journaux. Premièrement, Forbes, le magazine Forbes, le 24 mars 2013, avait mis un titre qui était « Manger trop de sel nous tue par million ». Par la suite, le Healthline News, le 14 août 2014, 1,6 million de décès par maladie cardiaque chaque année causée par une consommation excessive de sel.
Quand même.
Health Day, 3 février 2014, les adolescents américains mangent trop de sel, augmentant le risque d'obésité. Blog Santé de Harvard, 11 juillet 2016. Ça fait 8 ans, c'est quand même pas si long, pas si loin. Pour le bien de votre cœur, continuez à limiter le sel. Fait que, tu sais, le but, c'est pas de réfuter ça nécessairement. C'est juste que faut faire attention des fois aux gros titres qu'on peut voir parce qu'il y en a gros que ça va aider définitivement, mais il y a beaucoup de personnes que ça peut nuire des titres comme ça. Puis le point aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça fait le sel. Et en passant, pour bien comprendre, dans le sel, il y a du sodium, OK? C'est ça le concept. Puis on parle de sel parce que c'est là-dedans qu'il y en a le plus de sodium. Mais le but aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça fait dans le corps, les effets positifs, les effets négatifs, démystifier un petit peu tout ça. Fait que j'avais sorti, dans le fond, certaines études sur Santé Canada, le CDC aux États-Unis. Premièrement, selon Santé Canada, les recommandations sont de maximum 2300 mg de sodium par jour jusqu'à 1500 mg pour les plus vieux ou ceux ayant une hypertension artérielle. C'est pas beaucoup. OK, c'est vraiment pas beaucoup.
Selon... Écoute, tu manges littéralement une pointe de pizza avec des pepperoni pis tout, puis je pense que tu viens déjà de battre ça. Là. C'est l'équivalent.
Un bon gâtisso.
Ah, c'est fou, mais la quantité de sel qu'il y a dans les aliments transformés qu'on a parlé récemment, c'est impressionnant.
Vraiment, vraiment. Selon le Centers for Disease Control and Prevention, c'est le CDC, plus de 50% des gens aux États-Unis cherchent à réduire leur consommation de sel et environ 25% se sont fait dire par un professionnel de la santé de réduire leur consommation de sel. C'est quand même beaucoup, là. C'est une personne sur deux. Et dernière, selon les scientifiques à travers la population mondiale, lorsque les gens sont laissés à eux-mêmes, et ça, c'est super intéressant. C'est une hypothèse plus que d'autres choses, mais lorsque les gens sont laissés à eux-mêmes pour la consommation de sel, ils consomment en moyenne entre 3000 et 5000 mg de sodium par jour. On recommande de pas... Là, je parle de Santé Canada, c'était différent aux États-Unis. Honnêtement, j'ai pas tant checké c'était quoi, mais ça doit pas être loin. On recommande de pas dépasser 2300 mg, mais lorsque les gens sont laissés à eux-mêmes, de façon autonome, les gens vont avoir tendance à consommer entre 3000 et 500 mg.
5000. Fait que là,
3000 et 5000, merci. Entre 3000 et 5000 mg par jour de sodium. Fait que là, quand je disais c'est une hypothèse, c'est-tu de dire, est-ce que les gens mangent tellement de cochonneries d'aliments transformés, puis de pizza avec des pepperoni puis du gâteau, qu'ils arrivent là de façon ultra facile, ou parce qu'ils ont des carences en sodium, puis ils bougent, mettons des personnes qui sont actives, peu importe, et ils ont besoin de plus de sel, donc automatiquement leur corps envoie des signaux et ils mangent 3000 à 5000 mg de sodium. C'est pour ça que je dis que c'est comme une question qu'on doit se poser, mais c'est quand même intéressant de voir que quand les gens le font de façon involontaire, automatiquement ils vont manger en dessous. Moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus de cochonnerie que d'autres choses en sachant l'alimentation nord-américaine aux États-Unis, là. Mais tu sais, reste que c'est des données qui sont intéressantes parce qu'il y a beaucoup de peur face au sel. Vas-y, Jay. OK, c'est bon. Il y a beaucoup de peur face au sel. Ce qui, des fois, est effectivement, on devrait avoir peur, mais certaines personnes devraient le réduire, 100%. Mais beaucoup de personnes se tirent dans le pied à réduire leur consommation de sodium et c'est un petit peu là-dedans qu'on va parler aujourd'hui.
Ouais,
fait que Jay, justement, je pense que ça introduit bien le sujet face aux différentes données qu'on peut entendre. Tu voulais parler du rôle, des rôles du sodium. Fait que vas-y, je te laisse.
Je vais même rajouter le rôle du sodium et des électrolytes, parce que les électrolytes sont interreliés directement avec le sodium. Puis tu sais, à plusieurs reprises dans notre clinique, nous, dans le fond, on a accès à une bioimpédance in-body. C'est super intéressant. C'est un gros scanner qui permet de savoir littéralement toutes les données, on va dire les marqueurs de santé dans votre corps. Ça peut nous dire l'eau à l'intérieur de vos cellules. Donc, si vous êtes déshydraté ou si vous êtes bien vital, dévitalisé, on peut voir l'eau extracellulaire, fait que le surplus de rétention d'eau que vous allez avoir qui cache principalement les insertions musculaires. On peut voir la segmentation musculaire et tout. Fait que c'est super intéressant de voir si une personne, exemple, est un sportif, puis qu'on voit qu'il est déshydraté à 47 % de son poids du corps en eau. Puis habituellement, les recommandations devraient être entre 50 et 65 % de notre poids du corps en eau. Fait que on peut voir les personnes qui ont tendance autant à être des sportifs que des personnes sédentaires, être dévitalisées et ne pas transporter suffisamment les vitamines et minéraux. Puis ça, souvent, quand on leur parle de « Tu consommes-tu beaucoup de sel? »« Ah non, moi, j'ai tout coupé le sel. » Intéressant. Fait qu'on peut voir que les vitamines, minéraux, l'eau principalement que tu vas consommer, tu as beau boire 2 litres, 3 litres, 4 litres, il se fait mal transporter. Et ça, c'est un gros rôle du sel. Fait que je veux parler des électrolytes et du sel ici, parce qu'à la base, on a créé, on va dire, une peur sociétale au niveau du sodium et des électrolytes. Certains athlètes se sont un peu ouverts la conscience face à ça, puis ont commencé à en consommer un peu plus pour justement augmenter leur eau intracellulaire et être prêt pour exemple, une course, un marathon, un sport d'endurance ou peu importe quoi. Le sodium, c'est quoi en tant que tel? Les électrolytes et le sodium sont des molécules chargées électriquement qui jouent un rôle essentiel dans le corps. Notamment, c'est dans l'équilibre des fluides de l'organisme, la transmission des signaux nerveux, donc la communication entre le cerveau et toutes les cellules de ton corps. Si je dis à mon cerveau, contracte ma masse musculaire au niveau de mon bras, je voudrais faire une flexion du biceps, il y a des échanges électriques du cerveau qui doivent se transporter dans les corps d'eau à l'intérieur de mon organisme pour aller sécréter la myosine et contracter le muscle. Fait que si je suis en carence d'eau, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les connexions entre mon cerveau et le muscle peuvent mal se faire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut subir des affaires du genre des crampes musculaires, des faiblesses musculaires, des choses de même. Fait que c'est bien important de comprendre que le sel joue un énorme rôle dans la contraction musculaire, la transmission des signaux nerveux. Puis quand on parle de transmission des signaux nerveux, c'est extrêmement vaste, là. Il y a énormément de fonctions face à ça et dans l'équilibre des fluides. Qu'est-ce qu'un électrolyte? Souvent, on en entend parler, mais on ne connaît pas les sources d'électrolytes. Souvent, on pense que, oh, une banane, on a déjà entendu dire qu'il y avait du potassium dedans. Un potassium peut être de l'électrolyte. Fait qu'on va manger plus de bananes. Mais au final, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Le sodium, le bon vieux sel rose, sel de table, sel de mer, qu'on va en parler un petit peu plus en détail, c'est quel le meilleur qu'on devrait prendre et tout, c'est principalement la base de tout électrolyte. C'est le transporteur de l'eau.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
On va avoir le potassium qu'on va retrouver dans la banane, la pomme de terre et l'épinard. On va avoir le chlorure qui est dans les tomates, les algues et la plupart des fruits, des légumes verts. Le calcium qui est dans les produits laitiers, principalement des poissons comme les sardines un peu plus gras, brocoli et chou kale. Puis ça, c'est intéressant parce qu'un moment donné, j'avais déjà lu que le calcium du produit laitier est très mal absorbé dans l'organisme et le calcium, de, exemple, du chou kale ou bien des épinards, est extrêmement fortement assimilé. Ce qui fait en sorte que si tu manges, exemple, une tasse d'épinards, c'est le même équivalent que si tu prends un produit laitier en termes d'assimilation. Il y a moins de quantité dans l'épinard, mais il y a une meilleure biodisponibilité. Fait que ça fait en sorte que si, exemple, tu ne prends pas de produit laitier, et que tu t'en vas vers les légumes verts, tu vas quand même réussir à combler ton calcium, ce qui a été une grosse peur sociétale depuis trop longtemps. Le magnésium, qu'on parle beaucoup moins simple puis qu'on va continuer d'en parler, ça se retrouve principalement dans les noix, les amandes, tout ce qui est racines, les patates, pommes de terre, etc. Épinards, tous les légumes verts, et les graines de chia, de lin, de chanvre, et les bicarbonates, qui sont principalement dans tous les fruits et les légumes. Ce sont les différents électrolytes, et le but, c'est de réussir à avoir, on va dire, une vaste gamme de tous tes différents types d'électrolytes-là pour maximiser l'eau que tu vas consommer, ton 2 litres d'eau que tu bois, intracellulaire. Donc, de le faire rentrer à l'intérieur de tes cellules pour vitaliser, hydrater ta cellule et faire en sorte que, autant au niveau des cellules nerveuses que des cellules immunitaires, que des cellules musculaires, que la cellule soit capable de bien fonctionner, d'être bien nourrie, de produire de l'énergie, de se nettoyer, de se régénérer. C'est ça, principalement, le rôle des électrolytes, de transporter les nutriments et l'eau. Quelles sont leurs fonctions? Principalement, maintenir les niveaux sanguins, régule l'équilibre hydrique et la pression sanguine. Ça, tantôt, on va en parler, puis on va pouvoir discuter d'un docteur super intéressant que tu as lu un livre dessus. La digestion, essentielle à la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Fait que ça aide beaucoup, beaucoup à produire de l'acide dans votre estomac qui vous permet après ça de mieux digérer, de démoléculariser les aliments. Fait que chez les personnes, en général, qui ont un métabolisme qui est très lent et une digestion qui est très, très lente, souvent, qu'est-ce qu'on va recenser, nous autres, c'est qu'il va y avoir une dévitalisation, donc moins d'eau intracellulaire, fait que manque de sodium principalement dans l'alimentation. Communication entre les cellules, comme tantôt j'ai spécifié, le cerveau communique par échange hydrique, échange aqueuse dans le corps. Fait que si je veux contracter, si je veux avoir une coordination au niveau de mes pieds, si je veux peu importe la fonction, c'est toujours au niveau de l'eau et si j'ai une déshydratation, inévitablement, ces fonctions-là ne se font pas bien. Prévention de la déshydratation, ça ne peut pas être plus clair que ça. Le sel, les électrolytes permettent de rétentionner l'eau. Je vais donner un petit exemple ici parce que j'ai un de mes très bons clients que ça fait 5-6 ans que je suis au niveau de la naturopathie. Puis, ce client-là, dans le fond, au début, initialement, il est allé voir son docteur à plusieurs reprises. Il a, dans le fond, un médicament. Il prend des diurétiques. Il n'a pas le choix pour une fonction rénale X. Bref, il prend ça. Puis là, il s'est rendu compte qu'il allait énormément uriner. Énormément. Fait que, qu'est-ce qui se passait? Il a fait une prise sanguine, puis on s'est rendu compte que cette personne-là, de un, au niveau de la bioimpédance, il est toujours déshydraté. Mais ce qui est intéressant, c'est que 100% de l'eau ou presque qu'il consomme, il peut prendre 2 litres, 2,5 litres, 3 litres, il est toujours en train d'uriner, puis son corps élimine énormément via la sueur. Fait que quand je suis arrivé avec la bioimpédance, Je me suis rendu compte que pour un bonhomme en très bonne santé, de son âge et tout, avec une belle masse musculaire, il était déshydratant environ 42-43%. Ça veut dire 42-43% de son poids du corps en eau. En fait, son poids du corps était en eau, ce qui ne va pas atteindre le barème de 50% qu'on voudrait avoir pour sortir de la déshydratation principalement. Fait que c'était super intéressant parce qu'il flochait de l'eau énormément.
Je vais rajouter un point à ce que tu viens de dire parce que si tu as des personnes qui sont vraiment en gros surpoids et quand je dis surpoids de graisse,
ouais.
Genre, tu peux pas calculer ça de même parce qu'il va être impossible. À 30%, genre.
Absolument.
Fait que moi, le ratio que je vais utiliser, c'est 60 intra, 40 extra.
Okay.
Fait que tu sais, mettons, tu as un ratio, exemple, sur 100% de ton eau. Si la personne a en bas de 60% d'eau par rapport à la règle de 3 intracellulaire, ben, il peut commencer à être plus déshydraté. Okay. Fait que si, mettons, tu es rendu à 57, 43, ben là, t'es mieux d'être à 61, 62.
Parce qu'on va s'entendre, une personne de 300 livres n'aura pas 160 livres.
Non, c'est ça, c'est impossible.
Ouais, définitivement, ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, il y a la bioimpédance, c'est toujours être capable de bien l'interpréter, ouais, mais ça peut fausser. En fait, tout est faussé quand une personne est en super obésité. Tout est faussé. Autant le métabolisme que tout est faussé. On peut percevoir 1800, mais réellement, la personne brille 2400. C'est... Mais principalement, c'est ça. Mon client, dans le fond, il allait tout le temps uriner. Puis, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'il avait excessivement peur d'introduire du sel. Il mangeait des aliments super naturels, provenant de la nature et tout, mais il ne salait rien. Au contraire, il regardait sur chaque emballage la quantité de sel tout le temps. Puis, honnêtement, s'il atteignait 1000 mg de sodium, tout confondu, puis c'est pas un gros mangeur, s'il atteignait 1000 mg de sodium pour un 2,5 à 3 litres d'eau consommée, c'était déjà bon. Fait qu'il flochait son eau parce que le 1000 mg de sodium ne permettait pas d'absorber la quantité totale d'eau qu'il consommait. Fait que peut-être qu'il absorbait 1 litre d'eau. Mais après ça, il allait en flocher 2 litres d'eau. Fait que sa qualité de vie était tellement réduite à cause qu'il était tout le temps en train d'uriner. C'était super intéressant, ça. Fait que dans son cas, juste d'augmenter un petit peu, avant, pendant et après les séances d'entraînement, la quantité de sodium, c'est un bon sel rose d'Himalaya ou juste tout simplement de prendre des électrolytes, automatiquement, il a commencé à voir qu'à place d'aller uriner 30-35 fois par jour, c'était excessif, il a commencé à y aller 50% moins. Fait que ça, c'est intéressant. Prévention de la déshydratation au niveau des fonctions de reproduction. Principalement, ça influence beaucoup au niveau de tout ce qui est hormonal. Fait que, en général, c'est pas compliqué. Si tu es déshydraté, il y a des centaines de fonctions dans ton corps qui ne fonctionneront pas de façon optimale. Fait que, la première étape, c'est de bien se revitaliser et de faire en sorte que l'eau pénètre bien. Et la petite dernière, c'est la transmission nerveuse. Fait que, principalement, comme tantôt j'ai dit, c'est tous les échanges électriques du cerveau. Fait que, ce sont les fonctions principalement du sel et des électrolytes. Et il y a plein de bénéfices à ça. Mais le problème, c'est si on s'en va dedans une trop grande quantité de sodium par rapport à la quantité d'eau, puis ça, je pense qu'on va en parler tantôt, mais une personne, exemple, une madame de 60 ans, inactive complètement, genre Ginette, écoute la TV 8 heures par jour, puis elle consomme 3000, 4000, 5000, comme tu as cité tantôt, de 4000 à 6000 mg de sodium, ce qui est deux fois, trois fois la quantité recommandée par Santé Canada, mais qu'elle consomme 500 ml d'eau, c'est incroyable la quantité de petites pierres qu'on appelle le sel qu'il y a dans son corps. Il faut qu'elle élimine ça. Fait que là, c'est inévitable et à risque de plein d'autres petites problématiques. Puis, by the way, je le répète, on le répète tout le temps, on n'est pas des médecins. Fait que, basez-vous.
C'est tout le temps les extrêmes parce que, tu sais, au bout de la ligne, tu peux, mettons, exemple, tu pourrais pas boire beaucoup d'eau, prendre beaucoup de sel, ça va être néfaste. Ouais. Comme tu pourrais prendre pas beaucoup de sel, boire beaucoup d'eau, ça va être néfaste.
Il y a déjà eu un concours, un moment donné, à radio, je pense. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'était un concours, je sais pas si ça a fini criminel ou pas, là, mais c'était un concours.
Pas l'air intelligent comme concours.
C'était vraiment pas intelligent. C'était un concours, il y avait comme une dizaine de personnes, puis c'était ceux-là qui réussissaient à boire le plus d'eau en l'espace de genre 10 minutes. Fait qu'il y avait des bidons d'eau, puis il y avait quelqu'un qui avait bu quelque chose comme... Je me souviens plus du chiffre, mais je pense que c'était plus que 15 litres là, en l'espace de 10 minutes.
Ça peut être fatal.
Ben, il s'est passé de l'hyperhidrose, la personne est morte.
Le terme, quand tu n'as pas assez de sodium, c'est de l'hyponatrémie.
L'hyponatrémie.
Là, je pense, OK? Vous irez voir,
mais t'imagines-tu l'impact sur les reins, l'impact sur la diurèse? C'est incroyable.
Ben, check, justement, ça me transitionne directement à mon... Ben, t'avais fini, je pense, juste mon point. Ça transitionne bien ce que tu viens de dire, parce que le prochain point, c'est comment notre corps fait pour balancer les niveaux de sodium. Parce que, tu sais, on peut en prendre plus, on peut en prendre moins, et le corps va s'adapter pour lui-même faire en sorte qu'on ait toujours ce qu'on appelle l'homéostasie, qu'on est toujours stable. Puis c'est super intéressant, principalement, c'est deux de nos organes qu'on appelle les reins, qui vont aider à balancer les niveaux de sodium et d'électrolytes principalement, donc d'eau. Et le processus s'appelle l'osmorégulation. Et comment ça fonctionne? Je vais là juste ici. Lorsque le sodium est trop élevé, qu'est-ce qui se passe? Les reins sont super intelligents. la concentration de sodium dans le sang augmente, donc exemple, après un repas riche en sel ou peu importe.
Bonne grosse pizza.
Une grosse pizza. Une poutine. Le corps réagit en augmentant la quantité de sodium excrétée par les reins. Fait que si t'en manges trop, le corps laisse excréter l'excès de sodium via l'urine. Fait que ça balance les niveaux. Dans l'urine, donc au niveau de l'excrétion de l'urine, le sodium excédentaire est donc évacué dans l'urine, ce qui permet de diminuer la concentration de sodium dans le sang. Donc c'est juste logique. Si jamais le niveau de sodium est trop bas, ce qui peut aussi être le cas pour beaucoup de personnes. Et en passant, juste avant de continuer là-dessus, tantôt tu disais un point, je le revenais. Les aliments transformés ont beaucoup de sel, définitivement. Et d'un autre extrême, les aliments naturels n'en ont pas du tout, voire à moins mettons, des fruits de mer, des choses comme ça, ils vont en avoir. Mais habituellement, ça ne vient pas avec du sel. Là. Fait que tu vas faire un steak, tu mets du sel. Des noix, ça ne vient pas salé. Là. C'est toi qui es sale ou tu les achètes salés.
Comme j'ai spécifié tantôt, c'est principalement des électrolytes que tu vas retrouver, fait que des minéraux, mais le sodium, très peu retrouvé à l'intérieur de l'aliment.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Très faible. Fait que l'affaire, c'est que si tu manges seulement des aliments naturels, tu risques d'avoir une carence en sodium si tu es une personne qui bouge beaucoup. Et souvent, si tu fais le lien entre les deux, c'est connu. Les personnes, de façon générale, des athlètes, des personnes qui veulent s'entraîner, qui bougent, ont souvent la mentalité du « faut que tu coupes le sel ». Mais là, c'est encore pire, ça devrait être le contraire. Les personnes qui font absolument rien devraient, oui, peut-être couper le sel, mais les personnes qui s'entraînent devraient peut-être augmenter leur consommation de sodium, on en parlera.
En fait, c'est toujours par rapport au niveau de conscience. T'sais, si une personne boit 2 litres d'eau, même si elle est sédentaire, la recommandation, c'est, je pense que tu vas en parler, mais c'est de consommer 2000 mg de sodium. D'habitude, c'est 1 g de sel, 1000 mg, pour 1 litre d'eau. En général, cette recommandation-là, c'est ce que Santé Canada a recommandé depuis toujours. Le problème, comme tantôt tu as spécifié, combien de personnes tu rencontres en clinique, Sam, sur les milliers de personnes qu'on a rencontrées qui ne consomment même pas 1 litre d'eau? Plus que la moitié. Combien de ces personnes-là mangent ultra transformées? Plus que le 3/4. Puis combien de ces aliments transformés-là doivent dépasser 2000, 3000 mg de sodium? Plus que le 3/4. Fait qu'au final, ces personnes-là consomment 3000 mg de sodium, mais consomment même pas 1 litre d'eau pour flusher, absorber et éliminer ça. Fait que tantôt, tu l'as dit, va être excrété par les reins, le surplus. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puis c'est là que ça peut devenir dangereux. Une bonne grosse pierre de sel. Ça fait mal. Je l'ai jamais eu, mais ça doit faire mal.
Sais-tu combien qu'il y a de sodium dans 1 gramme de sel?
1000.
C'est, non.
Ah, de. Vas-y.
Non, c'est, je me semble que c'est 600 mg. Fait qu'il faut éviter de confondre ça. Puis tu as dit quelque chose, puis je viens d'avoir un flash pour les besoins. Là. Dans le fond, si tu consommes 1 g de sel que tu pèses sur une balance à aliments, genre, tu vas avoir environ, me semble, là, je suis pas mal sûr de ce que je dis, mais 600 mg de sodium. Okay. Fait que si tu veux avoir 2000 mg de sodium, il faudrait que tu consommes peut-être 2,8 g genre de sel, là, si tu faisais le calcul. Là.
C'est vrai que techniquement, dans 1 g de sodium, il va avoir d'autres de minéraux, sel. Mais ça représente 80 % de la molécule.
De sel, tu veux dire.
De sel, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Fait que tu sais, tu as 80 % que c'est du sodium, puis 20 % que c'est d'autres types de minéraux.
Ben c'est NaCl, du chlore.
Ouais. Puis mais principalement, que ce que j'avais lu aussi, puis on en rejasera tantôt, mais le sel de table est à 97 % du NaCl, du sodium. Fait qu'il n'y a pas d'autres molécules ou presque avec ça. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il a été raffiné, transformé, puis que c'est seulement du sel.
Ah, quand, dernier point à la fin, là.
Quand tu embarques dans le sel rose d'Himalaya, c'est une autre affaire et tout. Fait que c'est là que la division peut se faire. Fait qu'il y a d'autres minéraux.
Je te laisse continuer.
Je reviens à ce que je disais. OK, donc, si jamais tu en manges trop, les reins très simples excrètent le surplus. Si jamais tu n'en manges pas assez, ben là, c'est le contraire. Réabsorption accrue par les reins. Si les niveaux de sodium dans le sang sont trop bas, par exemple, à cause d'une perte excessive de sodium, soit transpiration, exemple exercice, soit de la diarrhée, soit exemple des diurétiques, peu importe, les reins augmentent leur réabsorption de sodium. Qu'est-ce qui va se passer? Réduction de l'excrétion. En réabsorbant plus de sodium, le corps tente de maintenir une concentration sanguine adéquate et de préserver l'équilibre hydrique. Fait que, tu sais, les reins sont super, super efficaces, voire sont primordiales dans tout ce qui est l'osmorégulation, qui est le maintien des électrolytes, voire des niveaux de sodium, pour faire en sorte que si tu n'en manges pas assez, ben, les reins vont dire, OK, ben, on remplace de l'éliminer via l'urine, on va réabsorber pour faire en sorte de créer un équilibre. Si tu en manges trop, il va dire, ben, il y en a bien trop, on il va laisser passer ça via l'urine, fait que là, tu vas aller ruiner souvent.
C'est tellement
super bien fait. Je vais revenir sur un point que tu as dit, les électrolytes, parce que tu sais, moi, au début de ce concept-là, j'avais fait un live justement sur ça, le sel, puis je trouvais ça intéressant de le refaire en podcast. Puis tu parlais d'électrolytes. Puis oui, c'est super intéressant, les électrolytes. Pourquoi je voulais parler plus du sodium? C'est parce que c'est lui qui est le plus mal compris. Ouais. C'est lui que souvent les gens soit vont manger vraiment en excès, soit vont vraiment manger pas partout. C'est rare qu'on trouve une espèce d'entre-deux parfait. Ouais. Puis les autres électrolytes, tu retrouves beaucoup, beaucoup via l'alimentation versus le sodium. Hein, pas tant si tu manges, mettons, des aliments qui sont très, très sains ou très, très naturels. Ouais. Puis les électrolytes, je vais le dire là, je pense que ça sort un peu de la track de qu'est-ce qu'on parle du sodium, mais reste que, selon moi, sont super surestimés. Genre, beaucoup de gens vont dire, combien de fois je vois ça, même des personnes qui viennent me voir, personne typique, là, une femme vient me voir, 40 ans, elle fait de la marche un peu rapide, elle va faire des fois un petit peu de yoga, un peu de zumba, tu sais, 30 minutes.
Semi-actif.
Puis là, elle prend des électrolytes. C'est-à-dire, moi, il me faut des électrolytes. Ça donne absolument rien. Là. Tu sais, les électrolytes vont être utiles pour un athlète qui s'entraîne et qui bouge extrêmement longtemps, pendant au-dessus d'une heure et demie, peut-être même deux heures. Et surtout, puis surtout, s'il fait chaud. Parce que si tu t'entraînes deux heures, mais que tu ne suis pas pendant tout, t'as pas besoin d'électrolytes. Là. C'est... Fait que si tu le prends parce que ça goûte bon, go for it. Il n'y a pas tant de côté néfaste, selon moi, à ça, mais reste que c'est beaucoup surestimé.
Comme tu as déjà dit à plusieurs reprises, puis tu sais, j'aime beaucoup ce point-là, on essaie de... Tu sais, souvent, on essaie d'aller chercher la pilule miracle, des choses de même, mais au final, dans l'alimentation, si on régule notre quantité de sodium, on devrait être capable d'aller créer cet équilibre-là entre les électrolytes du corps parce qu'on en a déjà dans notre alimentation. Mmh. Fait que, tu sais, de prendre un supplément d'électrolytes, c'est selon moi, quand tu as déjà tout optimisé dans ton alimentation et que là, tu t'en vas te préparer pour courir un marathon et que, exemple, on voit que tu as tendance à faire des crampes et qu'on voit que l'hydratation intracellulaire ne se fait pas de façon optimale, là, on peut, spécifiquement par rapport à ta condition, aller introduire des électrolytes. Mmh. Une personne qui est ultra dévitalisée, qui mange déjà très salé puis qui a tendance à excréter énormément, on peut peut-être aller avec ça, mais c'est du très spécifique. Fait que ce ne sera pas ça qui va faire un gros game changer dans ta vie. C'est de réguler la base de ton mode de vie et ensuite la supplémentation, un complément à ton alimentation, c'est là qu'on peut l'embarquer. Je donnais un petit exemple hier, puis ça, je fais une petite parenthèse.
C'est correct, c'est ça qui fait que c'est le fun.
Ben oui, je donnais un exemple hier, puis tu sais, ma cliente arrive, puis écoute, j'évalue, c'était une première rencontre, j'évalue son mode de vie. Puis tu sais, mode de vie, elle n'a vécu du stress, elle n'a vécu des affaires dans sa vie, puis elle en vient encore. Puis tu sais, j'y disais, parce qu'elle m'avait sorti un supplément de sa sacoche, puis elle m'avait dit, est-ce que selon toi, ça peut m'aider? Puis je pense que c'était du GABA ou ben quoi de même, tu sais, qui va réguler tes neurotransmetteurs, te calmer, etc. Fait que là, j'arrive et je dis, OK, je te mets en situation, admettons, de comment ton corps va le percevoir. T'es dans le bois, t'es en train de manger, mettons, t'es avec tes amis autour d'un feu, puis là, t'as ta guimauve.
Tu me vois venir.
Là, t'as ta guimauve, puis là, t'es en train de la faire chauffer, t'es tout paisible, puis à un moment donné, t'entends au loin craquer. Là, tu regardes, tu croises ton regard avec un grizzly. Puis le grizzly, il veut te manger, puis il va te manger, puis t'as à peu près 5 minutes de réflexion. Puis là, ton premier réflexe, c'est, OK, il y a un putain de grizzly à côté de moi. Ben, je vais me prendre une capsule de GABA. Fait que là, la personne se prend une capsule de GABA. Est-ce que ça va réellement diminuer ton stress si dans ta vie, tu as constamment un grizzly? Si dans ta vie, tu chicanes constamment avec ton conjoint ou que tu es stressé financièrement? Non, ça ne réglera pas ça. C'est un plaster par-dessus quelque chose que tu dois réguler dans ton écosystème. Fait que c'est un peu la même affaire avec les électrolytes. Si tu ne bois pas ton 2 litres d'eau, si tu ne régules pas ta quantité de sodium, si tu ne manges pas de façon équilibrée...
C'est parce que l'affaire, c'est que... C'est tellement facile à vendre. Ah, c'est exemple, mettons, tu fais une pub sur Facebook classique, puis là, tu te fais cibler, puis tu vois un gros supplément marqué GABA, réduit le stress.
Ouais,
là, tu sais que tu es super stressé, puis tu n'as aucune connaissance dans le domaine de la santé, on va dire.
Où je paye.
Ben, ouais, c'est ça. C'est sûr que tu l'achètes, ça va réduire ton stress.
Hey, mais ils viennent en paquet de toi.
Ton stress vient, tu sais. Fait que comment tu ferais une pub du genre, mettons. En fait, c'est parce que tu pourrais pas vraiment cibler quelque chose de facile que tu cliques avec un bouton de carte de crédit que tu reçois chez vous pour faire réduire le stress de façon naturelle. Ouais. Parce que la pub serait genre, pour réduire ton stress, tu dois faire du yoga, tu dois faire ci, tu dois faire de la méditation, tu dois respirer, tu dois éviter de faire telle chose, tu dois enlever les produits qui te font... Tu sais, la personne va dire fuck off versus réduire le stress, GABA, 19,99, clic, acheter deux jours livrés chez vous.
Exactement. Puis tu sais, d'habitude, quand vous voyez une publicité comme ça, acheter du GABA pour calmer votre stress, payez-en un au prix de deux et obtenez le deuxième gratuitement. Tu le sais que c'est pas bien. Tu sais que ça t'aide trop.
Ouais, ça, c'est un classique.
Ouais, c'est un bon classique. Tu sais, la personne, où c'est que je paye?
Ouais, c'est bon.
Fait que je te laisse continuer.
Ben, en fait, t'es rendu à ton point. Sel et pression artérielle.
Fermeture en de la parenthèse. Le sel et la pression artérielle. Ça, souvent, on l'entend parler. Puis, tu sais, encore une fois, si vous écoutez le podcast et que vous avez une hypertension artérielle ou une hypotension artérielle et que c'est décelé par votre médecin, ne changez rien. Allez tout simplement consulter votre médecin. Nous, on vous partage des informations qu'on a lues. C'est bien important. On a lu un livre qui s'appelle The Salt Fix, qui est d'un docteur qui est ultra intéressant. Puis, c'est un chercheur au niveau, justement, de tout ce qui est cardiaque, maladie cardiovasculaire et tout.
C'est un cardiologue.
C'est un cardiologue. Il a écrit plusieurs livres face à ça. Fait que, super intéressant. Il débunk un peu plus par rapport à notre génération parce que personne ne le fait. On est encore dans la peur. Mais les preuves scientifiques sont très, 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 très contradictoires au niveau de la pression artérielle. Est-ce que réellement ça augmente la pression artérielle? Si tu prends 10 000 mg de sodium puis 0,5 litres d'eau, je pense que tu cours après un peu. Puis je pense que c'est le fait que tu ne bois pas d'eau qui va vraiment, vraiment aller altérer beaucoup. Mon opinion personnelle, puis ça, c'est très personnel. L'humain, depuis environ une décennie, a démonisé ce que le sucre a fait au niveau inflammatoire, au niveau de toutes les cascades des marqueurs dans le corps par rapport au sel. Ça veut dire qu'on a démonisé le sel, puis le sucre a eu full les devants pendant 100 ans. Puis là, qu'est-ce qui se passe?
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
C'est qu'on se rend compte qu'on a démonisé le sel. Puis finalement, est-ce qu'on avait peut-être tort de faire ça? C'est comme un peu le gras avec le sucre. Hey, manger du sucre, ça va faire maigrir. Le gras, ça va donner une maladie cardiaque. Faites attention au cholestérol dans les œufs, toutes les kits. Là, on se rend compte, c'est complètement l'inverse. Le monde, ils sont tous rendus keto. Ils font tous des low carbs, high fat. Puis c'est ça. C'est beaucoup contradictoire. Il y a une étude du PubMed ici. Puis j'ai deux études dans le fond, mais j'ai sorti le point de vue du docteur. Hey, je vais le dire. Docteur James Di Nicolantino.
Di Nico
L'Antonio, merci. Redis ça trois fois, va.
Di Nico L'Antonio.
Redis-le.
Di Nico L'Antonio.
D'accord.
Di Nico L'Antonio.
Caroline, t'es bon. Je suis pas capable de faire ça. Une étude qu'on a trouvée sur le PubMed, diverses études et essais ont produit des résultats contradictoires au niveau de la quantité de sodium et l'élévation de la tension artérielle. Malgré cette controverse scientifique sur la qualité des preuves impliquées, le sel alimentaire dans les maladies, les responsables de la santé publique au niveau local, national et international ont plaidé en faveur de la réduction du sel au niveau de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que principalement, ils n'ont pas vraiment eu d'études ou de preuves concrètes qui avaient réellement un impact. Mais ils ont décelé, puis je le lis ici, l'hypothèse du sodium et de la pression artérielle, lorsqu'on mange du sel, on est plus assoiffé. On a tendance à avoir plus soif. C'est normal, le corps va te demander, tantôt comme tu avais parlé, par osmose, homéostasie, il va vouloir réguler l'autre opposé. Tu manges trop de sel, il va vouloir aller consommer plus d'eau. Fait qu'on va être plus assoiffé, on va boire plus d'eau. Et l'excès de sel fait en sorte que le corps retient plus d'eau pour le diluer dans le sang. L'augmentation du volume sanguin ferait donc directement augmenter la pression artérielle. Mais selon une étude, réduire la consommation de sodium à 2300 mg. On s'entend, tantôt, tu avais parlé de 4000 à 6000 la heure. Ce que, en général, la personne moyenne va manger.
3000 à 5000.
3000 à 5000. Fait que 3000 à 5000, ça veut dire de couper de 50% principalement.
À 2300, dans le fond, c'est parce que c'est la
recommandation. Selon une étude, réduire la consommation de sodium à 2300 mg ou moins ferait descendre la pression artérielle de 0,8 à 0,2 millimoles seulement, ce qui est très, 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 très peu. Ça ne fait pas un impact assez majeur chez une personne, exemple, qui va avoir de l'hypertension artérielle pour dire qu'on a trouvé ta solution, il faut que tu coupes le sodium. Mais quels sont les méfaits de diminuer le sodium en grande quantité si on essaie de diminuer en bas du 2300? Parce que souvent, c'est coupe le sel. C'est pas consomme, prends un ramequin, pèse 2300 mg de sodium dans ta journée et consomme ça. C'est coupe le sel. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont tendance à couper énormément, à arrêter de saler tout. Et là, on ne sait pas s'ils se retrouvent donnant des niveaux sanguins entre 1000 et 2300. Mmh. Fait que c'est là qu'il vient avoir des déséquilibres et c'est là qu'après ça, il peut avoir d'autres problématiques associées à ça. Et selon le docteur James...
Di Nicole Antonio.
Merci. La croyance selon laquelle le sodium augmente systématiquement la pression artérielle et pose un danger pour la santé cardiaque est largement exagérée par rapport à lui. Il explique que l'effet du sodium sur la pression artérielle est souvent complexe et dépend d'énormément de facteurs tels que la fonction rénale de la personne, l'état de santé général et la composition globale de l'alimentation. Tout est en lien avec l'alimentation, selon moi en général. C'est que si la personne a une alimentation ultra déséquilibrée qui mange du sel extra transformé puis tout, ça n'aura pas le même effet qu'une personne qui mange super sain. Si une personne a des fonctions rénales qui sont défaillantes, c'est inévitable qu'il va avoir d'autres répercussions aussi. Fait que d'englober une recommandation par rapport à normaliser tout le monde, mais tout le monde est différent, tout le monde a une santé rénale différente, tout le monde a un apport hydrique, besoin différent, tout le monde a un métabolisme différent, c'est là que ça vient à avoir une controverse. Le docteur Di Nicole Antonio, that's it, critique certaines études comme l'étude InterSALT de 1988 qui ont utilisé pour conclure que le sel augmente la pression artérielle. Il montre dans les résultats que la tension artérielle varie énormément selon la population étudiée. En fait, certaines populations ayant une consommation élevée de sodium présentent une pression artérielle inférieure à celle qui consomme peu de sel. Il souligne également que la réduction du sodium dans l'alimentation entraîne souvent une augmentation du taux d'autres marqueurs de risque cardiovasculaire. Ça, c'est intéressant parce que, comme tantôt j'ai spécifié, plus tu le descends bas, plus il va y avoir d'autres marqueurs qui peuvent être potentiellement dangereux sur la santé cardiovasculaire qui vont augmenter, comme l'arénine, l'aldostérone et les triglycérides, ce qui pourrait être plus nuisible que l'excès de sodium lui-même dans le corps. Je pense que tu vas en parler tantôt de l'aldostérone.
Non.
Non?
Okay. Ben, je peux. Ben, en fait, c'était au niveau de l'osmorégulation.
Parfait.
Tu nous parles. Parce qu'il y a l'aldostérone. Dans le fond, là, je ne vais pas me mêler, mais il y a l'aldostérone puis l'hormone antidiurétique, l'ADH.
Ouais.
Puis c'est les deux hormones qui vont faire en sorte que si justement, là je ne sais pas quel qui fait quoi, je pense que l'aldostérone, c'est que si tu as trop de sodium, l'aldostérone est sécrétée et là, les reins excrètent via l'urine. Puis si tu n'as pas assez de sodium, si je ne me trompe pas, c'est l'ADH, donc l'antidiurétique qui est excrété ou qui est sécrété, excuse-moi, pour réabsorber. En fait, c'est très ça, c'est littéralement ça. Fait que c'est tout ce que j'aurais dit sur ça.
En résumé, le docteur Di Nicole Antonio met en garde contre une réduction trop stricte du sel, en soulignant que le sodium est essentiel pour diverses fonctions corporelles, y compris l'équilibre électrolytique et la santé osseuse, et que dans de nombreux cas, une consommation adéquate de sel peut en fait améliorer la santé cardiovasculaire. Mmh. Fait qu'en général, puis ça c'est une recommandation que moi je fais souvent à mes clients, je ne suis pas docteur, je tiens encore une fois à le préciser, puis je vais continuer de le préciser, mais chez des sportifs, exemple, qui consomment le moins de sel possible, qui consomment juste des aliments naturels, qui ont tout coupé les aliments transformés, en général, tu consommes 3 litres d'eau, tu devrais consommer jusqu'à 3000 mg de sodium pour être capable de bien absorber ça. Et qu'est-ce qui se passe? On voit l'eau intracellulaire drastiquement monter, on voit leur niveau de vitalité augmenter aussi, ils ressentent, les points de vitalité augmentent tous. Ils se rendent compte aussi qu'ils ont tendance à réabsorber un petit peu plus l'eau, fait que pour une quantité d'eau plus grande consommée, ils ont tendance à moins aller uriner. Ça veut dire que si, exemple, ils prennent 2 litres d'eau, ils vont aller uriner, je ne sais pas moi, 8 fois dans leur journée. Ils prennent 3 litres d'eau, mais ils n'augmentent pas leur sel. Ils vont commencer à aller uriner 12 fois par jour. Mais là, si je leur dis, augmente ton sel à 3000 mg pour ton 3 litres d'eau, là, ils se rendent compte qu'ils vont aller uriner peut-être 8 fois. Fait que souvent, on va voir ça chez des personnes qui s'entraînent ou des personnes qui prennent soin de leur santé puis qui se font dire par un spécialiste, augmente ta quantité d'eau à 2 litres. Mais là, la personne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle n'a pas augmenté son sodium. Fait que d'un autre côté, elle se retrouve dans une situation où elle est en train de tout flusher aux toilettes son 2 litres d'eau qu'elle a commencé à boire. Fait que c'est bien l'habitude de boire. Mais d'un autre côté, il faut que tu absorbes cette eau-là pour te vitaliser puis tu te la quittes. Fait que c'est là que c'est pratique d'avoir cet équilibre-là, comme le docteur Di Nicole Antonio, c'est ça, disait. La misère avec ce nom-là. En plus, je suis enrubé. Fait que c'est pas mal ce qui close mon point. Tu sais, c'est super intéressant de voir que le sel, si on le démonise puis qu'on fait juste le démoniser, on va le couper puis il va avoir d'autres marqueurs de santé des marqueurs, on va dire, de santé cardiaque qui vont juste augmenter puis ça va être plus nocif pour notre corps. Si on en consomme trop, c'est encore nocif une fois. Et c'est de trouver cet équilibre-là.
Moi, j'aime toujours la phrase « dosage makes the poison ».
Carrément.
Ça, je trouve ça bon parce que c'est le même pour tout. Ouais. Le sel, si t'en prends trop, c'est néfaste. Si t'en prends pas assez, c'est néfaste.
Manger une pomme par jour, c'est bon. Mange en 25, ça se peut que t'aies mal au ventre.
C'est le même dans tout, exactement. Ouais, là, je veux continuer sur ton point. En fait, c'est un autre point, mais c'est la sensibilité au sel face, parce que tu parlais de la tension artérielle, ça, je trouvais ça super intéressant. Là. Fait que, selon la littérature scientifique, les personnes avec une pression artérielle normale, qui donne à peu près un 120 sur 80 millimètres de mercure, là, environ 80% des personnes avec une pression normale ne sont pas sensibles au sel et ne voient pas leur pression artérielle augmenter avec une consommation plus élevée de sel. 8 personnes sur 10, c'est gros, là. Mm-hmm. Et ça, c'est prouvé. Deuxième affaire, les personnes qui ont une préhypertension, fait que légèrement au-dessus de 120 sur 80, parmi les personnes ayant une préhypertension, environ 75% ne sont pas sensibles au sel. Donc, même en ayant une légère hypertension ou une préhypertension, 7,5 personnes sur 10 ne sont pas sensibles si on augmente le sel. Toutefois, certaines personnes peuvent devenir sensibles avec le temps. Ça peut venir. Si on va voir pour les personnes qui font de l'hypertension, si je ne me trompe pas, c'est au-dessus de 180 sur 100, 140 sur 100, au niveau du 120 sur 80, environ 55% des personnes souffrant d'hypertension ne sont pas sensibles au sel, mais les autres 45% peuvent voir leur pression artérielle augmenter avec une consommation élevée de sodium. C'est quoi une consommation élevée de sodium? Ça ne le dit pas, là, mais pour eux autres, j'aurais tendance à... En tout cas, j'aimerais ça savoir c'est quoi qu'ils veulent dire par là, mais reste qu'encore une fois,
ben, c'est ça, c'est
une personne sur deux...
Ou...
Ben, c'est ça. Une personne sur deux n'est pas tant sensible au sel, même si tu augmentes cette consommation-là, quand tu fais de l'hypertension. Mm-hmm. Super intéressant. Selon le scientifique et médecin Robert P. Haney, je ne le connais pas, mais je sais que c'est un cardiologue, c'est la seule affaire que je... Diaboliser le sodium n'est pas seulement sans fondement selon les preuves, mais c'est également contre-physiologique car cela ignore la fonction la plus fondamentale du sodium dans les organismes mammifères. Ainsi, bien que des excès extrême de sodium puisse causer des problèmes de santé, notamment pour les personnes sensibles au sel, une réduction excessive peut également entraîner des complications. Donc, ça revient tout le temps à ce que tu disais tantôt, c'est de trouver le juste milieu. Trop, c'est comme pas assez, puis ben, pas assez, c'est comme trop. Fait qu'au bout de la ligne, c'est de trouver l'entre-deux. Puis souvent, les gens qui se tirent dans le pied, c'est qu'ils prennent soit trop d'eau, soit trop de sel, mais c'est... Puis là, si on revient avec les électrolytes que tu disais tantôt, c'est que tu veux toujours trouver un équilibre. Puis si jamais toi-même, via l'alimentation, tu n'apportes pas cet équilibre-là, ben c'est là que les reins vont travailler super fort pour essayer d'équilibrer ça. Mais qu'est-ce qui est mieux? Que tes reins n'aient pas tant besoin de travailler fort puis tu donnes toi-même l'équilibre ou que tes reins sont toujours en train d'essayer d'excréter ou du moins de réabsorber du sodium parce que tu n'en as pas assez? Fait qu'à un moment donné, oui, les reins sont là pour ça, mais tu peux toujours les aider puis comme juste donner la quantité idéale, ça serait de trouver l'entre-deux. Là.
Absolument. Puis il y a plein d'aspects qui vont impacter la quantité de sodium que tu devrais prendre.
Ben, c'est justement en ligne, dans le sujet. Et voilà.
Mais, tu sais, au niveau... Ben, en fait, tantôt, je voulais juste citer un point. On va-tu en reparler d'un autre sujet? Je pense que ça va vraiment loin, genre dans saison 7. L'hypertension artérielle, puis les désordres métaboliques, puis tout le kit. Tu sais, la dernière fois, j'avais juste cité un point à un de mes clients parce que le client, il vient me voir, il pèse 250 livres. Puis, tu sais, il y a environ un 60-70 livres à perdre pour atteindre son poids santé ultime. Puis, son docteur avait décelé qu'il faisait de l'hypertension artérielle majeure. Tu sais, il est quand même sévère, là. Il est à 160 sur 110, 110, c'est haut. Puis, il est médicamenté, mais il a même de la misère à réguler ça. Puis, tu sais, j'y avais dit, mettons que ton cœur, il est conçu génétiquement pour être dans une machine de 180 livres, puis qu'il se retrouve dans une machine de 260. Est-ce que naturellement, c'est normal que ton cœur pompe plus? Là, il arrive, il me dit, ben, c'est logique. J'ai dit, ben, la première étape, selon moi, ça serait de diminuer ton poids, d'atteindre ton poids santé ultime. Comme ça, la pompe cardiaque va avoir beaucoup moins à travailler parce que tu es dans un corps 40 % plus lourd que ce que génétiquement tu es conçu. Ton cœur, lui, oui, c'est un muscle. Oui, il peut se développer, mais ça reste quand même qu'il pompe en Saint-Cyboire parce qu'il s'est développé parce que tu es actif, non pas pantoute. Il est en train de travailler fort parce que tu as une machine beaucoup plus lourde. Fait qu'il doit travailler. C'est comme si tu es conçu pour avoir un V4, mais tu le mets dans un troc de V8.
En plus, dans ces moments-là, le 40 livres, exemple de surplus, mettons qu'on prend en considération que c'est du gras, ben, il peut avoir de la graisse viscérale, donc à l'entour du cœur, fait que c'est encore pire.
Hein? Encore pire, tu crées encore plus d'impact. Fait que tu sais, souvent, tension artérielle, hypertension artérielle, moi, ce que j'en crois, ce que j'ai perçu avec mes clients, avec mon expérience, c'est la première étape, c'est le surpoids. Parce que le surpoids cause énormément de problématiques. En fait, le surplus calorique qui amène le surpoids, crée énormément de problématiques. Puis d'un autre côté, l'hypotension artérielle. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des femmes qui vont être en hypotension artérielle. Ces femmes-là ont tendance à avoir une masse musculaire plus faible que leur 100% de masse musculaire génétique. Et quand on s'en va voir l'eau intracellulaire, toujours aux alentours d'un 42-43%, pour une femme qui est super petite, en général, c'est dévitalisation. Fait qu'on peut voir que cette personne-là, fort probable qu'elle ne mange pas assez, qu'il n'y a pas assez d'échanges hydriques dans son organisme, puis qu'elle est dévitalisée, entre parenthèses. Fait que, encore une fois, c'est un avis. Mais tu sais, ça reste quand même que c'est des gros marqueurs à regarder. Je voulais juste citer ça. Les situations où on peut avoir besoin de plus de sodium. Fait qu'une personne sédentaire, mettons René, 45 ans, à maison, elle a deux enfants, elle a une routine, tout le temps travaille assis et tout le kit, c'est pas elle qui va avoir des grosses conditions pour devoir augmenter la quantité de sodium dans son organisme. Mais si on regarde en tant que tel, René, 45 ans, se prépare à aller courir un Ironman, elle n'a pas du tout les mêmes besoins. Fait que le fait d'être un athlète, il y a un besoin accru au niveau du sodium. Tu sais, juste... Je pense que toi, tu es un gars qui a tendance à uriner quand même beaucoup quand tu bois un 3 litres, 4 litres d'eau par jour. On boit pas mal la même quantité d'eau, du 3 à 4 litres pas mal tout le temps par jour. Toi, tu urines beaucoup plus que moi. Mais moi, je sue énormément.
Mais je dois être, pour vrai, là, c'est sûr, je suis plus que 3 litres, évidemment. Genre, pour vrai, je pense que je dois frôler 5 litres.
Ouais.
Parce que je me rends compte, puis là, tu vois, justement, j'ai oublié ma bouteille d'eau, c'est ça, je cherchais tantôt, fait que je boive après, je suis en manque d'eau. Mais genre, c'est trop une habitude, voire même trop, pour vrai. Ouais. Tu sais, je dis à mes clients de faire ça, mais. Je suis tout le temps en train de boire de l'eau, mais en même temps, je sale beaucoup, fait que ouais. Tu sais, j'équilibre, mais je parle en ça, je suis en haut de 3 litres.
Mais tu sais, au final, c'est ça, c'est une belle habitude, puis tout est encore une fois une question de est-ce que, oui, tes reins sont en super de bonne santé, j'en suis pratiquement certain, puis est-ce que la quantité de sodium avec ça est adaptée? T'es pas mal tout le temps, tu sais, on connaît nos affaires en général. Mais le fait qu'on soit un athlète, qu'on se prépare pour aller courir un runman, un marathon ou quoi que ce soit, l'objectif, c'est de réussir à augmenter l'eau intracellulaire le plus possible. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va vouloir, une phase avant, peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant, augmenter le sodium, augmenter l'absorption de l'eau intracellulaire le plus possible, peut-être aller prendre un complément d'électrolyte parce que là, cette personne-là, on tend à vouloir aller chercher un 60-65%. C'est intéressant ça parce que, tu sais, un runman qui dure environ 4 heures, entre 4 heures et 5 heures, admettons, d'activité physique, cette personne-là, après 4 heures, ça apporte à 40, mettons, on va dire à 55% de niveau d'hydratation intracellulaire. À la fin de tout son Ironman, elle va finir à combien? 45, 46, 47? Elle va avoir perdu considérablement de l'eau, là. Peut-être un 2 livres, 3 livres d'eau dans son organisme. Fait que ça, c'est majeur sur les chances d'avoir une crampe musculaire, d'avoir une déshydratation, d'avoir peu importe quoi. Fait que, tu sais, ça va diminuer les performances. Puis je vais en jaser tantôt des effets sur les performances que ça fait, une légère déshydratation.
Bon, moi, maintenant, ils se sont rendus quand même conscients parce que, mettons, j'ai deux personnes que je connais qui ont couru, trois personnes en fait, qui ont couru un marathon. C'est le marathon, je pense, de Montréal à la fin de semaine passée, dans le fond.
Okay.
Ou l'autre, en tout cas, là, une semaine ou deux. Là. Puis il y a des stations, il y a des gels. Mm. Puis les gels, c'est des électrolytes, là, by the way. Ben, non, du sucre, là, mais comme.
Sucre électrolyte.
Ils sont rendus conscients. Je sais pas si c'était ça sur Curve, là, 20 ans, exemple. Là, mais là, maintenant, la science a évolué. Fait que, tu sais, les électrolytes sont connus dans ce domaine-là. Pour vrai, j'ai jamais... T'es quelqu'un qui est vraiment sérieux, qui fait soit un marathon, un triathlon, un Ironman, un demi-marathon, peu importe c'est quoi.
Il va savoir c'est quoi.
Ben, si c'est pas c'est quoi des électrolytes, là, fais tes recherches parce que je peux
viens nous voir.
Ouais, c'est ça.
Définitivement. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le fait de transpirer énormément, on perd beaucoup de sodium à travers tout ça. Tu sais, moi, je te donne un exemple très, très, très simple. Des fois, ça arrive que, exemple, si je prends une multivitamine le matin, que je m'en vais m'entraîner et que je sue excessivement, ça peut des fois tellement piquer dans les yeux, puis ça peut venir à, justement en parlant de ça, mon rhume me pique dans les yeux, mais ça peut venir à piquer dans les yeux, puis ça peut avoir quasiment un goût, tellement que c'est salé, puis tout, t'élimine beaucoup. Fait qu'une personne qui s'en va courir un marathon, un Ironman ou tout le kit, inévitablement, il y a plus de besoins. Puis même les personnes qui s'entraînent, dès l'instant que tu es actif, tu élimines plus. Simple de même. Le risque de crampes, clairement, un athlète de performance ne veut pas avoir des crampes. Fait que c'est là vraiment, comme tantôt on parlait, les échanges électriques entre le cerveau et la masse musculaire ou les échanges électriques, les influx nerveux de ton cerveau à ton corps, c'est tous les échanges électrolytes, magnésium, potassium, sodium qui vont faire la différence. Fait qu'une personne qui se pète une crampe en plein milieu, peut-être qu'elle vient d'atteindre 48%, 49% d'eau intracellulaire. Fait que les échanges ne peuvent plus communiquer de la même façon. Puis le muscle, à force de tout le temps contracter en répétition, bien, à un moment donné, il peut avoir une déconnexion entre le cerveau pendant 15 secondes. C'est ça qui vient à causer une crampe. Les personnes dévitalisées en manque d'eau intracellulaire, je vais te donner un très bel exemple ici d'une de mes clientes, mais tu sais, l'hydratation intracellulaire, c'est des choses qu'on ne parle pas assez, que la plupart du temps, les personnes, quand ils viennent me voir, qui n'ont plus d'énergie, sont dévitalisées, ils ont mal à la tête tout le temps, écoute, ils ont un mauvais sommeil, ils n'ont plus de libido, bref, la personne, on le voit là, a besoin d'aide. Puis elle n'a aucune piste de solution, elle ne sait pas où s'en aller, elle ne sait pas quoi faire, elle vient tester l'alimentation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je fais la bioimpédance, on se rend compte, t'es vraiment, vraiment, un, il y a un surpoids, deux, t'es très fortement déshydraté. OK, qu'est-ce qui fait en sorte que t'es fortement déshydraté comme ça? On va aller voir. OK, son alimentation, un, elle mange très peu, deux, très transformée, trois, elle consomme pas d'eau, quatre, l'autre option, elle prend beaucoup de caféine. déshydratation. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? On fait juste tout simplement introduire certains compounds dans son alimentation, on introduit un beau mode de vie équilibré, on augmente la quantité d'eau, on lui dit tout simplement « sale un petit peu plus, ça va vraiment t'aider ». Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Un mois plus tard, « tabarouette, j'ai donc bien vu de l'énergie ». Ben, viens-t'en, on va aller voir ça, sa bioimpédance. Embarque sa bioimpédance, tu as gagné 2 % d'eau intracellulaire en l'espace d'un mois. Il est interrelié directement à ça, ton niveau d'énergie. C'est, oui, le fait de manger plus de calories puis de manger plus de nutriments, ça va t'aider. Mais l'eau intracellulaire, c'est littéralement les nutriments, les vitamines, minéraux que tu consommes, ils vont être transportés par échange électrolytique dans tes cellules et vitaliser ta cellule. Fait que la madame qui était dévitalisée puis que les nutriments se transportaient très mal, voire elle en transportait très peu, bien là, elle se retrouve dans une situation où elle est en train de se revitaliser. Fait que j'ai une de mes clientes, récemment, ça l'a fait ça. Puis tu sais, au téléphone, elle m'a dit, récemment, ça a absolument changé ma vie. J'étais, on va dire, sceptique en venant parce qu'elle n'avait jamais testé, on va dire, un beau mode de vie équilibré et tout. Puis même là, elle n'avait plus aucune qualité de vie. Elle marchait à peine, elle avait de la douleur partout. Elle avait vraiment des grosses douleurs partout. Digestion, ça ne fonctionnait pas. Cognitif, fatigue chronique et tout. Sommeil, ça n'allait pas non plus. J'ai dit, écoute, de ce que je peux voir quand je l'ai évalué, ça va changer ta vie clairement. Puis elle me l'a spécifié cette semaine quand j'ai eu mon premier coaching call avec. On a juste tout simplement introduit une multivitamine. Elle n'a pas de contre-indication médicale, fait qu'une multivitamine. On a augmenté son eau. On a donné le nombre de calories pour combler les besoins métaboliques. Et drastiquement, son énergie qu'elle n'avait pas depuis 5, 6, 7, 8 ans est revenue instantanée. Elle a dit, je comprends même pas encore qu'est-ce qui se passe, mais quand je l'ai rencontré sur la bioimpédance, l'eau intracellulaire a skyrocket dans le haut. Fait que ça fait toute la différence. Elle a perdu, je pense, 10 livres en un mois, mais c'est l'eau intracellulaire qui a eu une plus grosse différence encore. Puis moi, je me suis dit, félicitations, tu as perdu 10 livres. Mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est la quantité d'eau qui est allée se réhydrater à l'intérieur de tes cellules, par échange. C'était vraiment intéressant ça, mais tu sais, les personnes dévitalisées en manque d'eau intracellulaire devraient inévitablement consommer plus d'électrolytes, plus de sodium, plus d'eau, puis essayer de rebalancer ces systèmes électrolytiques-là. Troisième, les personnes qui éliminent beaucoup via l'urine, effet diurétique. Fait que principalement, j'ai mon client, justement, tantôt que je spécifiais, ce client-là, il est tout le temps aux toilettes. Principalement, il flush tout le temps. Dès l'instant qu'il a introduit un peu plus de sodium dans son alimentation, ça s'est diminué un petit peu plus, il rétentionnait plus, eau intracellulaire augmentée et tout aussi. Super bon, super avantageux. Fait que ça, si exemple, à la personne qui écoute le podcast, vous êtes pipi minute, ben oui, ça pourrait peut-être être quelque chose à regarder, bien sûr. Les différents types de diètes aussi. Il y a des diètes qui vont spécifiquement demander plus de sodium parce qu'on coupe certains groupes alimentaires et tout. Si on regarde en tant que tel, les diètes low carbs et keto, ils ont principalement, ces personnes-là, des marqueurs qui vont voir. Tu sais, on va voir des marqueurs de, on sort beaucoup d'eau intracellulaire parce que les glucides, je ne veux pas trop embarquer là-dedans, on a déjà parlé, puis je pense qu'on va en reparler dans un prochain sujet des glucides. Mais les glucides, en tant que tels, remplissent les réserves de glycogène musculaire. Fait que ton muscle se remplit d'énergie. Puis avec chaque gramme de glycogène qui rentre dans ton corps, tu vas rétentionner entre 3 et 6 grammes d'eau. Ça, c'est principalement de l'eau intracellulaire. Fait que les personnes qui font du keto, qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai perdu 10 livres dans le premier mois, je suis donc bien fier. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que tu as toutes sorti tes réserves de glucose, tes réserves de glycogène musculaire, et tu as sorti en même temps l'eau à l'intérieur. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur une machine comme la bioimpédance, qu'on peut tout voir ce qui se passe, tu as réellement perdu 2,5 à 3 livres d'eau, 3 livres de gras parce que tu as coupé les cochonneries et le sucre. L'autre 6 à 7 livres, c'est de l'eau extra et intracellulaire. Ça, c'est la meilleure façon de se faire pogner dans la diète keto. Il y a des avantages à ça pour des troubles pathologiques X, mais c'est la meilleure façon de se faire pogner, perdre 10 livres. Après ça, l'eau a déjà été perdue. Dès l'instant que tu manges une patate, qu'est-ce qui se passe? Tu as rempli un peu de réserve de glycogène, tu restockes de l'eau intramusculaire. Puis c'est ça. L'effet de la caféine et du diurétique sur la déshydratation aussi. En général, moi, j'ai une règle. Si tu prends un café de 500 ml d'eau, il faudrait que tu consommes 500 ml de café. Faudrait que tu consommes 500 ml d'eau pour récupérer l'effet diurétique. Pourquoi? Parce que comme tantôt tu as parlé avec justement l'aldostérone et toutes ces choses-là, l'élimination de l'eau va se faire à cause d'effets diurétiques du genre caféine et etc. Il y a des médicaments aussi, il y a des plantes thérapeutiques qui peuvent aider à éliminer plus d'eau. Fait que, tu sais, de ce côté-là, la caféine est un diurétique naturel et ça augmente l'excrétion de liquide par l'urine, ce qui entraîne une perte de sodium dans le corps. Fait que, principalement, boisson énergisante, même affaire aussi. Fait que, principalement, dès l'instant que vous prenez un café, vous devriez rajouter entre 250 et 500 ml d'eau. Si vous êtes une personne qui prenez 3, 4, 5 cafés, bien, ça vous le dit tout de suite, c'est inévitable que vous allez sortir de l'eau intracellulaire et que vous allez vous déshydrater. Ça, c'est principalement une chose que je vois régulièrement. Fait que le but, encore une fois, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Et je tiens à spécifier, Même le café décaféiné contient un peu de caféine, mais il y a moins d'effet diurétique que le café caféiné. Fait que ça peut être un bon point aussi. Si vous aimez le café, pour le goût que ça vous apporte, mais pas pour l'effet nécessairement, prenez-vous un café caféiné. Oui, il va avoir un effet diurétique, mais ensuite de ça, dirigez-vous vers du décaféiné. Vous allez avoir le goût, le petit côté chaud du café, mais en même temps, ça va moins impacter le côté diurétique, donc vous allez être mieux hydraté face à ça. Fait que c'est pas mal les points principalement que je voulais dire du pourquoi on devrait avoir une augmentation du sodium dans certains cas. Fait que je fais juste un petit résumé de point par point juste pour être bien, bien clair. Les athlètes ont un besoin accru en sodium. Les personnes dévitalisées ou en manque d'eau intracellulaire. Fait que les personnes en général qui ont des gros maux de tête chroniques, de la fatigue chronique et tout. Puis bien sûr, ce n'est pas que ça. C'est une multitude de facteurs. Faites-vous bien évaluer. Mais ça reste quand même que ça peut énormément aider si c'est spécifiquement une déshydratation et une dévitalisation. Une personne qui élimine beaucoup d'eau via l'urine, puis ça, il y en a. Il y en a que leur voie d'élimination par excellence, c'est l'urine. Les différents types de diètes comme le keto et toutes ces choses-là. Et les diurétiques comme la caféine et toutes les boissons énergisantes. Fait que ça fait le point, Sam.
Tu sais que je m'étais mis des notes parce que je vais en rajouter.
Vas-y.
Les troubles gastro-intestinaux, maladie de Crohn, colon irritable. Combien de personnes qui vont avoir de la diarrhée non-stop. Fait que genre, si tu flushes, tu vas avoir besoin de plus de sodium parce que tu flushes beaucoup de sodium. Autre super, vraiment sous-estimé. Et encore plus, tu es un athlète qui vient de se faire un énorme training. Tu n'as pas tant consommé de sel, tu as perdu du sodium, puis tu t'en vas te claquer un sauna. Si tu sors d'un sauna, tu es déshydraté, c'est normal, tu vas éliminer énormément de sodium.
Le but d'un sauna, c'est de sortir de l'eau.
L'excès de stress, beaucoup de personnes qui vont être stressées vont avoir des carences en sodium, la consommation d'alcool, les femmes enceintes ou qui allaitent, puis pour prévenir différentes infections, ça pourrait être intéressant. Hein? Maintenant, pourquoi on a besoin de plus de sodium lorsqu'on transpire? Ça, c'est pendant le point le plus intéressant, en tout cas, selon moi, du podcast. Là. Transpirer permet à notre corps de maintenir une température corporelle normale qu'on appelle la thermorégulation pour éviter les coups de chaleur. En fait, ça nous permet de nous refroidir tout simplement. C'est ça le concept de la transpiration. Parce que si on n'était pas capable de transpirer, on aurait un excès de chaleur et on mourrait littéralement. On aurait trop chaud.
J'ai un point là-dessus. On a trouvé ça vraiment, vraiment drôle, moi et ma blonde. La dernière fois, on s'entraînait ensemble. Puis écoute, on faisait un training, puis j'étais en train de dégoûter. Puis quand elle touchait ma peau, j'étais froid, froid, froid. Fait que ma peau était ultra froid, mais mon corps excrétait énormément de chaleur. Puis elle, sa peau est toujours ultra chaude, mais c'est impossible de l'avoir suée même dans un sauna. Mm. Je trouvais ça super intéressant. C'était la première fois que j'étais en contact avec ça.
J'ai de la misère à dire pourquoi.
Je sais pas. Ben, la thermorégulation, comme tu as dit tantôt. Ouais. Le corps, moi, mon corps, probablement, qui va créer une réaction de « je vais sécréter du froid pour essayer de me tempérer parce que j'ai une température corporelle interne vraiment plus chaude qu'une personne normale. » Je sais pas pourquoi.
On est avec le métabolisme, là, clairement, mais c'est intéressant.
Ouais.
C'est intéressant. En moyenne, on transpire environ… Ça, c'est super intéressant. On parlait d'athlètes tantôt, juste des personnes qui s'entraînent. En moyenne, on transpire environ 1450 mg de sodium par heure lors d'exercices physiques dans un climat modéré et environ 2900 mg par heure lors d'exercices physiques dans un climat chaud. Je vous rappelle que la recommandation de Santé Canada, c'est environ 2300 mg maximum par jour. Et là, si tu t'entraînes de façon intense dans un climat qui est chaud, tu peux dépenser jusqu'à 2000, ou du moins la moyenne va être de 2900 mg. Donc, ce qui est 600 mg de plus que ce que Santé Canada recommande de prendre dans une journée, tu es capable de le brûler ou du moins de le transpirer une heure d'exercice lorsqu'il fait très chaud.
Fait que mon client qui s'en va faire un marathon au Mexique à 32 degrés,
on va en parler de ça justement. Selon le niveau d'intensité, c'est possible de perdre la consommation d'une journée entière de sodium justement avec un entraînement d'une heure. Dans des climats très chauds comme en Inde, ça c'est fou là, on peut perdre jusqu'à 15 000 mg de sodium par jour. Pas par heure, là, on va se calmer, mais par jour, ce qui est énorme. Comment consommer 2300 mg ou moins pourrait nous être bénéfique? Évidemment, c'est Santé Canada. Là, on parle de l'Inde. On s'entend, c'est pas le même pays, c'est pas la même affaire. Mais reste que faire une recommandation qui est globale, des fois, c'est difficile parce que c'est d'adapter selon chaque personne. Si tu t'en vas en voyage en Inde et tu viens du Canada, puis toi, tu sais qu'il faut pas que tu dépasses, ou du moins, tu as toujours su qu'il faut pas que tu dépasses 2300 mg. Si tu t'en vas en Inde pendant un mois, voyage backpack, toujours en train de marcher, c'est sûr que tu reviens déshydraté. Là.
C'est là que tu vois que c'est très difficile. Tu sais, on en avait parlé la dernière fois dans un ancien podcast, c'est quoi que tu ferais au niveau de le système de santé si tu étais, admettons, ministre de la Santé ou peu importe quoi.
Mais c'est ça l'affaire. C'est là qu'on voit que, tu sais, jusqu'à un certain point, je suis pas contre ça parce qu'ils n'ont pas le choix de créer une recommandation de quelque chose, mais c'est parce que c'est jamais adapté. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais dit dans un podcast, Jay, la problématique, c'est pas tant la recommandation de Santé Canada, c'est qu'est-ce que les gens vont percevoir et vont apprendre de ça puis qu'est-ce qu'ils vont mettre en pratique. Parce que comme, si tu sais quoi faire.
Comme on avait parlé de l'alcool, c'était quoi les recommandations anciennes?
Avant, c'était les hommes, c'était une affaire jusqu'à 15 consommations maximum par semaine. Puis les femmes, c'était genre 11, 10, un affaire
de
même.
C'est quoi de même? Puis là, 15 consommations 3, 4, par semaine.
3, 5, t'sais, peu c'est importe c'est quoi le sexe.
Mais tu sais, c'est des recommandations. Puis tu sais, encore une fois, ça, ces recommandations-là, s'il y a une personne qu'au niveau du foie puis des reins est en défaillance, et c'est vraiment pas ça. Ouais. Mais quand on englobe les recommandations pour tout le monde normalisé, c'est là que ça devient vraiment problématique.
La différence, c'est qu'avec l'alcool, ils font du cash, avec le sodium, non.
C'est ça. Ben, c'est encore drôle avec l'hypertension, ils en font.
Ouais.
On ferme la parenthèse.
Fait que c'est ça. Climat très chaud, très, très bénéfique d'augmenter sa consommation de sodium. En plus, évidemment, si tu fais du sport et tu bouges. Il est documenté que certains joueurs, ça, c'est une des affaires qui m'interpellait le plus, pas à cause du joueur de soccer, parce que je ne suis pas un joueur de soccer, mais plus quelle est la consommation, ou du moins la transpiration que tu peux faire. Il est documenté que certains joueurs de soccer peuvent perdre jusqu'à 6000 mg de sodium pendant une seule session d'entraînement. J'imagine que session d'entraînement, c'est un match. Sport, fait que surtout dans des climats très chauds. Hey, 6000 mg de sodium seulement dans ton match. Mais là, tu n'as pas compté. Puis évidemment, c'est le reste d'un match. Tu n'as peut-être pas bougé tant que ça dans le reste de ta journée. Fait que tu en as besoin beaucoup moins. Mais reste que si on va dire que tu en dépenses un autre 2000 dans ta journée, qui est classique, on va dire, ça veut dire qu'il t'en faudrait 8000 juste pour être stable, juste pour équilibrer. Fait que si tu prends 8000 mg d'un, personne. Beaucoup de joueurs ne feront pas ça. Et de deux, il y en a qui vont le faire, mais ils n'auront pas assez d'eau non plus.
Au niveau professionnel, je suis certain qu'ils ont tout.
Non, non, mais attends un peu, on parle de professionnel. C'est pas pareil. Là.
On parle de professionnel.
Ouais, ben, pas nécessairement.
Okay, okay, okay.
On parle juste des joueurs de soccer. Là. Okay. Parce que je sais c'est quoi au niveau professionnel. Puis moi, j'ai dans le fond une cliente qui était venue me voir que elle a de la famille dans la Ligue nationale de hockey. Yeah. Un des coachs en particulier. Puis lui, je sais qu'il donne du sel. Parce que c'est ce qu'elle m'avait dit. Je trouvais ça super intéressant. Tous les joueurs de cette équipe-là prennent du sel pendant qu'ils ont les matchs, dans leur bouteille. Ou du moins, électrolytes. Et honnêtement, ça a tellement évolué que là, ils sont rendus avec des produits. Là, je sais que ça a fait faillite, mais BioSteel, ça en était un, par exemple, des électrolytes. Ils sont rendus avec, je pense, c'est Sea Ranch. Là. C'est un autre, comme la nouvelle un peu marque BioSteel. Mais tu sais, reste que sont conscients dans ce domaine-là. Puis ils ont des nutritionnistes, ils ont des personnes qui les suivent à journée longue. Là, je te parle pas nécessairement d'un joueur de soccer. Le Ronaldo, s'il perd 6 000 mg de sodium, je te garantis que quelqu'un va lui dire d'en reprendre 6 000.
Alors, je te garantis 222 millions par McGregor ou bien McDavid, ils se réveillent le matin, ils ont tout de suite leur diététicien qui leur donne leur verre d'eau avec un peu de sodium, le bon échange d'électrolytes. Ils vont prendre leur multivitamine spécifique à l'athlète qu'ils sont. Puis tout au long de la journée, je suis certain qu'ils sont bien régulés. C'est les élites de leur sport. Fait que,
mais c'est-tu quoi? Pas tant.
Tu penses?
Pas tant. Ben, pas je pense, je suis certain.
Comment ça?
Ben, je connais quelqu'un qui joue dans la Ligue nationale, puis il me l'a dit. Puis il y a pas. L'affaire, là, c'est que c'est fou, man. Puis pour vrai, moi, je te parais comme toi jusqu'à temps que lui me parle du mode de vie, puis je suis comme, ah ouais, t'es sérieux? L'affaire, c'est que.
Deux pop-tarte licorne pour déjeuner.
Ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'off-season, oui, ils vont avoir des plans d'entraînement qui se font envoyer, ils vont avoir des stratégies X, mais ils sont pas tant plus suivis. L'affaire, c'est qu'ils vont être suivis quand ils sont à l'aréna, mettons. Mm-hmm. Parce qu'à l'aréna, il y a des chefs. Il y a des cuisiniers. Fait, ils ont accès à n'importe. Fait que là, la bouffe, elle doit être insane. Mais reste que je ne crois pas qu'il y ait des stratégies, du moins, je ne sais pas si c'est ce que je te dis, qui sont reliées à ça.
C'est fou parce que dans le domaine actuel, surtout au Canada ici, 97% est dans le curatif, 3% est dans le préventif. Puis tu sais, l'alimentation, c'est le préventif. Fait qu'il y a très peu de développement au niveau. Puis encore là, dès l'instant qu'on veut développer, il y a de la limitation. Mais on a très peu de développement au niveau de tout ce qui est la science alimentaire. Puis ça se développe très, très peu dans cette direction-là. C'est même des fois quasiment banalisé. Tu sais, une personne va se faire dire, elle fait de l'hypertension artérielle, vous devriez couper le sel. Vous devriez prendre telle pilule. Mais au final, la personne, c'est toute une question de régulation alimentaire. Puis c'est complexe, là, tout ce qu'il y a à faire. Fait que,
en tout cas, ça me fait capoter.
Il faut que ces personnes-là, mettons, tu parles d'athlètes de haut niveau, il faut qu'ils engagent, ça doit dépendre des sports. Là. Mettons, pour la Ligue nationale, je sais qu'il faut qu'ils engagent eux-autres même des personnes. D'ailleurs, Martin Brodeur avait déjà engagé un Québécois qu'on connaît bien, qui est naturopathe, qui l'avait suivi dans le temps qu'il avait une blessure. Fait que si le Martin Brodeur n'avait pas voulu payer au privé quelqu'un pour ça, il n'y avait rien. Là. Ouais. Ça a probablement évolué, on est rendu en 2024, mais reste que ça présentement, reste quand même je sais que c'est pas la grosse affaire comme on peut peut-être s'attendre, même à des niveaux qui sont très, très élevés.
McGregor, comme j'avais parlé dans un dernier podcast, là, le film qu'il a fait sur Netflix, moi, ça me faisait capoter. Il se fait réveiller par son coach de nutrition. Après ça, il s'en va dans sa maison, son château, il y a comme 15 coachs. Fait qu'il s'entraîne, il y en a quatre autour, tout de suite après, il s'en va voir son sensei, puis c'est non-stop mentoré, tout est régulé, l'alimentation, il n'y a rien à faire, il fait juste avoir le plat devant lui, puis à la limite, il y a un coach qui le fait manger lui-même. Tu sais, c'est quasiment ça, là.
Mais en même temps, il y a bien des enfants qu'on voit aussi dans le documentaire, là, parce que probablement qu'il part à une croisière, il doit être avec sa famille, ses amis, puis pas sûr qu'il y a 8 nutritionnistes.
Ah, c'est sûr qu'il n'est pas tout le temps régulé, mais comme tu as dit, in-season, près d'un match en préparation.
Ouais, là,
tout,
c'est pas pareil.
Ouais, c'est ça.
Dans une autre étude, une réduction du sodium pendant un exercice à haute intensité a augmenté les crampes, la fatigue musculaire, réduit les performances d'endurance, causé une fatigue générale, des douleurs articulaires, des troubles de sommeil, des troubles circulatoires et plus une plus grande soif. Ces symptômes se sont grandement améliorés lorsque les personnes ont augmenté leur consommation de sodium. Même lorsqu'ils s'entraînaient plus fort, leurs symptômes se sont éliminés. Super intéressant. Fait qu'augmente le sel quand tu t'entraînes fort, il fait chaud puis tu sues. Super intéressant pour les performances. La soif, ça c'est super intéressant. La soif qu'on ressent lorsqu'on fait du sport puis qu'on on a l'impression qu'on est déshydraté est souvent reliée avec un manque de sodium et non nécessairement un manque d'eau. Parce que qui va faire du sport et ne boit pas d'eau? Ça arrive pratiquement jamais. Là, tout le monde sait que si on fait du sport, on doit
boire une petite bouteille d'eau.
Ouais, mais tu sais, l'affaire, c'est que plus souvent qu'autrement, les personnes savent que si tu fais du sport, tu dois boire de l'eau. Versus, les personnes ne savent pas tant que tu dois augmenter ta consommation de sodium si tu fais du sport. Fait que super intéressant. Puis, la dernière donnée que j'ai là-dessus, après ça, tu vas parler de comment faire, quoi faire lorsqu'on fait de l'exercice. Là. Je pense que j'ai inclus un petit peu la parenthèse là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sueur contient entre, et là, c'est très large parce que ça dépend de chaque personne, entre 7 fois et 80 fois plus de sodium que l'eau du robinet. Quand j'ai l'eau du robinet, c'est l'eau classique qui n'a pas nécessairement enrichi de quoi que ce soit. Elle a 7 à 80 fois plus de sodium. Donc, évidemment, si tu transpires, ça veut dire que oui, tu évacues de l'eau, c'est évident, mais tu évacues entre 7 et 80 fois plus de sodium. Fait que c'est normal que tu veux te réhydrater, pas juste avec de l'eau, mais avec une consommation de sodium pour équilibrer les deux.
C'est un bon point ce que tu viens de dire, parce que ça vient de me faire penser, mais moi, je m'en vais chercher mon eau chez Pure, une compagnie qui filtre l'eau, à 0 ppm. Il n'y a plus aucun minéraux, à zéro, flat. Fait que tu sais, moi, j'ai pas le choix de saler mes aliments quand même très régulièrement parce que sinon, je ne le retrouve pas dans l'eau. Il y a du sodium naturellement dans l'eau.
Ah, mais d'ailleurs, justement, face à ça, là, c'est vrai, tant qu'à être là-dessus, tu sais, je dis depuis tantôt de mettre du sodium dans l'eau. Je sais pas si vous avez déjà mis du sel dans de l'eau. Mettons une bouteille d'eau normale, vous mettez du sel, vous buvez ça, ça goûte la sueur. Fait que l'objectif, c'est pas nécessairement juste de dire que tu mets du sel dans ton eau, mais c'est que tu peux saler plus tes aliments. Tu sais, comme moi, mettons, je le dis, je ne mets jamais de sel dans mon eau. Jamais, jamais. Je trouve ça dégueulasse. Par contre, sur mes aliments, mes repas avant, après l'entraînement, voire pendant l'entraînement, si je prends, mettons, un carb load pendant que je m'entraîne, que du goût, je vais mettre un petit peu de sel. Des fois, dans mon pré-workout, je vais mettre un petit peu de sel parce qu'il y a du goût dedans. Quand je mange, je vais saler mes aliments. Fait que le sel, je le mets toujours sur quelque chose qui goûte quelque chose. Mm-hmm. Je ne vais jamais boire du sel de même. L'autre option qui est plus touchée un peu, c'est le shooter. Je pense justement tu veux en parler de ça, mais.
Ben, je ne parlerai pas du shooter d'eau salée. Okay.
Mais ça peut être intéressant pour des personnes qui ne veulent pas nécessairement rajouter du sel, soit sur leur nourriture ou dans leur boisson. Ben exactement. Pré-workout, avant d'aller t'entraîner, tu mets 4-5 petits criques ou on va dire entre 700 et 1500 mg de sodium dans ton petit shooter, tu mets ça de l'eau, tu brasses, tu cales ça, ça goûte salé une seconde, mais après ça, tu as ta consommation de sel pendant le training.
Ouais. Faut juste pas avoir mal au cœur après ça.
Ça dure une seconde.
Quoi faire lors d'exercice qui s'en va directement là-dedans? Ouais. Consommer plus de sel avant, pendant et après l'exercice. T'sais, en fait, c'est très simple. Le sel va augmenter le volume d'eau intracellulaire, comme on a parlé tantôt, améliorer la circulation sanguine, donc plus de nutriments et d'oxygène au tissu, ce qui veut dire plus de performance. Ça va éviter les risques d'avoir de la fatigue musculaire et nerveuse, des crampes et aussi des claquages musculaires. Un muscle bien hydraté, c'est un muscle qui va être beaucoup plus préservé. Un muscle qui tombe dans la déshydratation, c'est un muscle qui a plus de risques d'un claquage musculaire. Fait que c'est encore une fois bien important quand vous faites un sport d'endurance et là où vous perdez le plus d'électrolytes parce que tu t'en vas courir pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures pour ton marathon, ton Ironman. Inévitablement, il va te falloir de l'eau et des électrolytes un peu plus, sinon tu es à risque de claquage vers la fin. Des études ont démontré que la déshydratation peut significativement altérer la performance en endurance, notamment dans les sports d'endurance du genre marathon, triathlon, Ironman, vélo, etc.
Principalement ça.
Oui, ben, principalement l'endurance. Ça. Parce que je m'en vais m'entraîner, j'ai bien beau me péter le training le plus intense de ma vie de jambes, ça reste quand même que ça va durer 45 minutes à une heure. Fait que après ça, je vais aller manger un repas avec du sel un peu. Lorsque la perte de fluide dépasse 2% du poids corporel, on commence à embarquer dans l'eau, dans la déshydratation et tout, les coureurs constatent généralement une baisse de performance, une augmentation de la fatigue, une élévation du rythme cardiaque, ainsi qu'une capacité réduite à réguler la température corporelle. On panique un peu plus. Cela peut aussi entraîner une diminution des capacités cognitives, perte de focus, et augmenter le risque de blessures et de claquages. une hydratation adéquate, avec des fluides contenant des électrolytes tels que le sodium, aide à maintenir le niveau sanguin, à réguler la fonction musculaire et à prévenir des conditions telles que des crampes et l'hypoatrémie. Dilution excessive des niveaux de sodium dans le sang, comme tu avais dit tantôt. En comparaison, les athlètes bien hydratés, avec une consommation de boissons riches en sodium, présentent généralement de meilleures performances car ils évitent une fatigue cardiovasculaire excessive et conservent une meilleure fonctionnalité musculaire. Une déshydratation, puis ça c'est bien important. Quand on parle d'une déshydratation, c'est en bas de 50 % du poids du corps. Une déshydratation de 2 à 5 % de la masse corporelle peut entraîner une diminution de la performance de 8 à 11 % selon une étude. Ça veut dire qu'une personne qui commence son marathon, qui commence à 55 % d'eau, et que là, à la fin, exemple, dans les 30 dernières minutes de son marathon, il est rendu à 48-47 %, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est qu'il va avoir une perte de 8 à 11 % de performance cognitive, etc., plus à risque de claquage. Fait que le but pour te préparer pour une compétition ou une course ou un sport d'endurance ou quoi que ce soit, c'est de réussir à augmenter le niveau d'eau total dans ton corps, encore une fois, en absorbant plus avec le sodium et l'eau. Simple de même. Mmh. Fait que, super intéressant, mais c'est principalement les recommandations de quoi faire pour l'activité physique.
Recommandations avant et pendant l'exercice. Tu viens de dire qu'est-ce que ça va faire. Maintenant, je vais dire... je te laisse. Maintenant, je vais dire c'est quoi par rapport au climat, nécessairement en termes de réelles données. Okay? Donc, si exemple, on parle d'un climat modéré. Et là, je vais donner un aperçu. Climat modéré, on va parler en bas de 27 degrés Celsius. En haut de 27, commence à faire chaud. Pas mal, okay. En bas de 27... idéalement, tu devrais viser. Et on s'entend, là, ce que je dis, c'est une recommandation générale. Encore une fois, c'est un peu ce que Santé Canada fait. C'est difficile de dire exactement selon chaque personne. Mais si tu veux te donner une espèce de général, si tu vas t'entraîner pendant longtemps et que tu as un climat en bas de 27 degrés Celsius, environ une demi-cuillère à thé avant l'exercice et une demi-cuillère à thé toutes les heures ensuite. Donc, c'est exemple, tu t'entraînes pendant 3 heures parce que tu vas courir. Une demi-cuillère à thé avant, une demi-cuillère à thé, peut-être t'en mets 2 dans 2 bouteilles que tu cours avec tes 2 poches, cet exemple. Okay? Climat chaud, entre 27 et 32 degrés Celsius, une demi à une cuillère à thé avant l'exercice et toutes les heures ensuite. Et dans des climats très chauds, 33 degrés Celsius ou plus, commence à être quelque chose. Là. Et là, on parle encore une fois qu'on s'entraîne longtemps. Là. 1 à 2 cuillères à thé avant l'exercice et toutes les heures ensuite. Et à titre indicatif, si on fait la conversion, très simple. Une demi-cuillère à thé va donner environ 1150 mg de sodium. Une cuillère à thé va donner environ 2300 mg de sodium, donc la recommandation de Santé Canada. Et 2 cuillères à thé va donner environ 4600 mg de sodium. Fait que si on reprend le climat très chaud, 2 cuillères à thé avant et toutes les heures ensuite, ça veut dire que c'est 4600 avant, 4600 à l'heure d'après. Hey, ça peut être rendu à 12 000 là après. Mais là, je te parle dans 33 degrés Celsius quand tu cours un marathon.
Ah oui. Ah on s'entend. Ouais. Prenez pas ça. Là.
Non, mais c'est ça. Mais reste que c'est intéressant à savoir.
Parce qu'une cuillère à thé, principalement de sodium dans un ramequin, c'est ce qu'une personne normale, sédentaire, typique, devrait consommer. C'est son 2300 mg.
Ouais, la cuillère à thé, ça ouais. Dit. Ouais, c'est ça, très
bien. Quand même intéressant. Ça, c'est bon à savoir. Fait que, tu sais, une personne, exemple, qui va, je sais pas, moi, un athlète qui boit 3 litres d'eau par jour devrait consommer 1,5 cuillère à thé pour aller chercher son 3300.
Parce que, tu sais, dans le fond, c'est que c'est, tu peux le calculer en cuillère à thé qui est vraiment plus simple. T'sais, tantôt, on parlait un nombre de grammes, là, que je te disais, mettons, un gramme de sel, c'est genre 600 mg de sodium. Mm-hmm. Fait que ça dépend comment tu veux le calculer. C'est sûr qu'une cuillère à thé, c'est simple, mais c'est parce que tu sais, t'as une cuillère à thé.
Ouais.
Fait que évidemment, ça dépend comment on transpire la génétique, notre habillement, l'intensité de l'exercice, ton âge, etc. Mais reste que super intéressant. Fait que Joe, tu veux close. Vas-y.
Ouais, je close. Tu veux le dernier sur les sortes c'est de quelle sel? Sorte de sel? Je me le fais souvent poser. Hey, moi, je prends du sel de table. Hey, moi, je prends du sel rose Himalaya. Je me sens tellement plus santé à cause de ça. On va y démystifier, mais j'en ai sorti 3 principalement. Les 3 principaux qu'on va voir sur le marché. Le sel rose Himalaya. Principalement, j'ai entendu une bonne celle-là. Tantôt, je t'en parlais en dehors d'onde. Mais faites-vous pas avoir parce qu'un sel rose Himalaya, ça va être cherché sur l'Himalaya. Fait que c'est vieux. C'est pas créé en laboratoire, ça. Là. C'est vieux.
Ah non, c'est ça, ouais.
Fait qu'une personne qui arrive et qui me dit « Hey, sur mon sel d'Himalaya, il y a une date de péremption puis ça périme en 2026. » C'est pas vrai.
C'est parce qu'ils n'ont pas le choix d'en mettre une.
Je sais. Sinon, ils vont faire la rotation. C'est principalement ça. Contient environ 80% de chlorure de sodium, mais il est également très riche en oligoéléments comme le potassium, le calcium, le magnésium, qui lui donne sa couleur de caractéristique. Ça veut dire que c'est très, très, très intéressant au niveau du sel rose d'Himalaya, mais on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de chlorure de sodium, comme on a parlé, la même molécule que le sel de table. La seule et unique chose, c'est qu'il contient énormément plus d'électrolytes au travers de ça. Fait qu'on se retrouve dans une situation où le sel rose d'Himalaya, pour un athlète, selon moi, et de meilleure qualité à cause de, on va dire, l'équilibre entre le sodium et les électrolytes. Le sel de mer iodé. Il existe du sel de mer, mais moi, en général, ce que je recommande, c'est du sel de mer iodé pour contenir un peu d'iode à l'intérieur. Le sel de mer est obtenu par évaporation de l'eau de mer. Ça le dit à l'intérieur, ça vient de la mer. C'est principalement composé à 90-95% de chlorure de sodium, mais il contient aussi quelques traces de minéraux marins naturels tels que le magnésium, le calcium et le potassium, principalement la même affaire. L'iode est ajouté pour prévenir la carence en iode qui peut venir entraîner des troubles au niveau de la glande thyroïde. La glande thyroïde se nourrit majoritairement d'iodine et d'iode. Fait que principalement, lorsqu'on prend un sel de mer iodé, ça peut potentiellement aider les personnes à augmenter leur valeur au niveau de la glande thyroïde, ce qui va avoir un effet positif sur le métabolisme basal et tout. Fait que la thermorégulation et tout le kit. Et le sel de table, à 99%, c'est du chlorure de sodium avec des additifs tels que des anti-agglomérants pour empêcher la formation de grumeaux. C'est souvent enrichi aussi un petit peu d'iode, un minéral essentiel pour la fonction thyroïdienne. Mais en soi, ce sel-là, souvent, qu'est-ce qui va s'être passé, c'est que il va être beaucoup plus transformé, puis il va peut-être être en contact avec un peu plus d'agents anti-agglomérants, des produits chimiques, des agents, tu sais, des additifs et tout. Fait que c'est la raison du pourquoi je le recommande un peu moins. Puis tu sais, dans 90% du cas, chez les gens qui sont inconscients, c'est ça qu'ils vont consommer. Dans les restaurants, c'est ça qu'ils offrent aussi. Mais juste de faire le switch dans un sel de mer iodé ou un sel rose d'Himalaya, on vient, un, aller chercher naturellement plus d'électrolytes. Deux, on va avoir une meilleure molécule en tant que telle, tout simplement, que le sel de table très simple avec des produits chimiques dedans. Le but est toujours d'essayer de maximiser les molécules comme ça. Puis en termes de goût, selon moi, le sel rose d'Himalaya a un bien meilleur goût que toutes les autres. C'est mon avis.
Ça se ressemble, par exemple, vraiment,
c'est
mais...
C'est du sel.
Ouais.
Du sel, c'est du sel. Ça goûte le sel.
Ouais, c'est ça, exact.
Fait que, tu sais, c'est pas mal ce qui conclut notre sujet sur le sel d'aujourd'hui. T'avais-tu un point à rajouter, Sam, avant qu'on...
Je voulais dire de quoi sur ce que tu viens de dire, puis je l'ai oublié. Mais la seule affaire que tu parlais des électrolytes, c'est qu'il y a beaucoup de minéraux de plus, mettons, dans le sel rose, exemple. Ah non, c'est ça. C'est
il est
ça.
Plus riche en minéraux
puis,
qu'il a.
Il est plus riche, mais c'est très, très faible.
Ouais.
Fait que, tu sais, rendu là, mettons, comme le sel de table, exemple, moi, la seule raison pour laquelle je dis de pas prendre du sel de table, tu sais, parce que si tu, je te dirais pas prendre du sel rose de l'Himalaya pour avoir des minéraux puis avoir des électrolytes. Tu sais, je vais te le dire pour le sodium principalement, pour, parce que ça goûte bon, mais juste parce que le sel de table, il est dénutri, puis principalement parce qu'il est transformé, puis il est chauffé à haute température.
Ouais.
Puis le sel de table, il avait principalement rajouté de l'iode dedans, et la raison pour laquelle il avait rajouté de l'iode, ça fait longtemps que ça reste dans même, c'était pour prévenir le goitre. Puis c'est ça le concept de l'hypothyréosie.
Ouais.
Fait que le sel de table, il est tout le temps enrichi d'iode pour prévenir ça. Super intéressant.
Absolument, super intéressant. Fait que tu sais, dans notre cas, nous, on recommande le sel rose d'Himalaya ou le sel de mer. IED principalement. C'est ce que je recommande à mes clients. Les personnes qui ont tendance à avoir un petit peu plus de défaillance au niveau de la glande thyroïde et tout le kit, peut-être un peu plus de sel IED, fait qu'essayer de prioriser un peu plus ça, ça peut aider beaucoup. Mm. Mais encore une fois, toujours sous supervision de votre médecin, parce que si vous prenez de la médication pour ça, ben là, on veut pas, tu sais, il faudrait pas que ça aille altérer. Fait qu'informez-vous tout le temps un bon spécialiste pour ça. Fait que gang, c'est ce qui met fin à notre sujet.
Merci gang.
C'est un bon sujet. Merci énormément d'avoir été présent. C'était vraiment un bon sujet aujourd'hui. C'était le podcast numéro 5 de la saison 2. On sort un podcast à tous les samedis. Soyez présents sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé ça, on vous invite à nous laisser un 5 étoiles. Vous ne savez pas à quel point ça fait une différence pour nous. On crée beaucoup de contenu. On va chercher beaucoup de matière. Puis moi et Sam, on a préparé pour les 9 prochaines saisons, 8 prochaines saisons, 10 sujets par saison. Fait qu'on a 80 épisodes minimum à vous donner. Puis ça, c'est juste pour l'instant. Fait que laissez-nous un 5 étoiles. Partagez le contenu, s'il vous plaît. Faites-le. C'est tellement important pour nous. Puis allez directement sur notre page Facebook Clinique Phoenix. Si vous avez des questions, si vous voulez faire affaire avec nous, si vous voulez qu'on vous aide avec votre mode de vie, ça va vraiment nous faire plaisir. Merci énormément, gang, d'avoir été présent. On se voit dans le prochain épisode.